Excellent mercredi matin. Toujours un bonheur de vous savoir à l'écoute pour les deux prochaines heures. Et ce matin, à l'émission, on va s'intéresser à un dossier que j'ai trouvé hyper intéressant dans le magazine Protégez-vous, en fait, sur les bébés. Comment finalement, là, ça finit par coûter extrêmement cher. Puis, tu sais, on va se le dire, là, il y a des entreprises qui mettent le paquet pour vous faire dépenser quand vous êtes des futurs parents. Et dès le début, là, dès le début qu'on sait qu'on est enceinte, là, on se dit « OK, OK, là, il faut que j'achète le petit pyjama parfait, il faut que j'achète la chaise haute parfaite, la poussette aussi. » Et ça finit par coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux futurs parents. Donc, avec les gens de Protégez-vous et aussi une nouvelle maman, on va vous donner des trucs pour peut-être couper un peu dans le gras, couper dans les dépenses. Et je pense quand justement tes nouveaux parents, t'as besoin d'avoir les sous. Parce que, écoutez, je regardais les prix, là, ça peut aller jusqu'à 1000, 2000, 5000. Écoute, il y a même des parents qui ont dépensé 10 000 $ pour l'arrivée d'un enfant. Tu peux en faire des affaires avec 10 000 $ Et au cours des prochaines semaines, ben, le mot vacances va être partout. Peut-être que vous êtes présentement en vacances, gang de chanceux. Les autres, ça va être dans les prochains jours. Et pour certains, c'est déjà planifié. Pour d'autres, ils vont décider de sortir peut-être un peu des sentiers battus, aller à l'extérieur, aller là où les gens ne vont pas nécessairement souvent. Certains vont se mettre en danger aussi, partir à la découverte, être moins dans le confort, moins prince et princesse, là, moins les 5 étoiles, aller plus dans l'étoile et demie ou la demi-étoile pour d'autres. Donc, comment voyager différemment et à quel prix? Hein? Vous voyez, on reste dans les dépenses, on reste dans l'argent ce matin à l'émission. Guillaume Lavoie est avec nous. Salut Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être là, chargé de cours à l'ENAP. Benjamin Rochette, voyageur, fondateur de WeServe, qui est un globe-trotter également qu'on a pu voir à l'émission Invasion, qu'on peut voir aussi sur le web. Merci.
Bonjour.
Et Jadrino Huot, aussi globe-trotter, producteur exécutif de la série de films Passeport pour le monde. Salut Jadrino.
Bonjour Catherine.
Et là, vous n'êtes pas encore en vacances finalement parce que vous êtes les trois avec nous ce matin.
C'est comme les vacances.
Oui, c'est ça. Merci, Jadrino. Guillaume, je commence avec toi parce que tu as vraiment une expérience hors de l'ordinaire dans les prochains jours, presque les prochaines heures. J'avoue que je n'avais pas pensé à ce type de voyage-là dans un conteneur, porte-conteneur, dans un bateau, une traversée.
C'est ça. Je m'en vais traverser l'Atlantique à bord d'un cargo porte-conteneur. Là, on va rassurer les gens, puis surtout ma mère. Je ne serai pas dans un conteneur où à tout le moins la porte va être ouverte.
Ça, c'était vraiment autrement vers dans un conteneur.
Mais il y en a qui essayent, mais ce n'est pas recommandé. Parce que tous les cargos qui voyagent, donc les porte-conteneurs à travers le monde, il y a la possibilité d'embarquer comme passager. Il y en a peut-être entre 1 et 6 là, sur chaque cargo. Et donc, ça faisait longtemps que c'était, on a tous un bucket list, là, une liste de choses qu'on veut faire avant de mourir. Alors, je ne meurs pas bientôt, mais je me suis dit, je vais faire ça tout de suite. Ça fait très longtemps que j'y pense. Puis là, ben, ça y est, je vais partir de Liverpool en bateau et je vais arriver au port d'Halifax.
OK. Et là, juste pour expliquer comment ça se passe une fois à bord, parce que quand Normand Gem, notre recherchiste, nous disait, hey, tu sais pas où c'est ce que Guillaume s'en va dans un conteneur. Moi, je t'imaginais vraiment, là, avec une petite mini-porte, à peine une toilette, salle de bain. T'as une chambre? C'est...
Oui, oui, absolument. Okay. Là, je vais voir. En tout cas, je ne l'ai pas vu encore, mais c'est présenté comme
ça.
Ah,
t'as pas vu de photos?
Oui, oui, j'ai vu des photos, mais je ne l'ai pas fait encore, mais... Vous savez que sur ces cargos-là, c'est un lieu de travail. Là. Il y a un équipage d'à peu près une vingtaine de personnes. Ces gens-là, évidemment, ils ne dorment pas dans des conteneurs eux-mêmes. Il y a des cabines qui ressemblent à des chambres d'hôtel essentiellement. Il y a une cafétéria. Il y a littéralement, il faut que 20 personnes puissent vivre sur le bateau. Ils ne font pas juste travailler là, hein. Ils ne retournent pas chez eux le soir. Alors, il y a certaines cabines en extra. Et moi, je vais en avoir une comme celle-là. Il y a des cabines un peu plus luxueuses, puis il y a des cabines doubles qu'on peut occuper avec quelqu'un ou seul. Et moi, évidemment, on n'est pas sur un bateau de croisière. Là.
C'est pas le Club Med avec les chansons le soir.
On n'a pas organisé tout ça. Il n'y a pas d'orchestre. Il n'y a pas de grand souper du capitaine. Il n'y a pas de film. Il y a, bien sûr, quand on mange, 3 bons repas par jour, c'est avec l'équipage. Et... lorsque le soir, par exemple, ça ressemble un peu, là, vous allez dans une grande salle, puis là, ben, il y a une grande télé avec probablement une énorme collection de DVD. Puis là, ben, vous pouvez jouer aux cartes avec l'équipage quand ils sont en pause ou ce genre de choses-là. Mais vous n'allez pas là pour, disons, le plaisir de l'organisation de votre vie culturelle et animale. Ce n'est pas de l'entertainment. Là.
Mais tu peux te promener sur le bateau un peu partout? Tu peux-tu faire
absolument. Ça? Ben, tout ce que j'ai lu, je vais le vivre pour la première fois. Mais bien sûr, il y a des lieux où il faut être là, mais accompagné, comme par exemple la salle des machines.
Et
j'ai
très hâte.
Ouais. C'est sûr qu'il y a un côté très curieux chez moi. Vous imaginez, là, c'est un bâtiment gigantissime. Mon bateau à moi s'appelle l'Atlantic Sun. Il fait à peu près 300 mètres. Ça, grosso modo, là, c'est 2 fois l'édifice G. C'est presque 2 fois la tour Ville-Marie. Puis il fait 40 mètres de large. Et c'est un porte-conteneur, c'est-à-dire double. On appelle ça un conroe. Il y a des conteneurs et on peut embarquer des voitures dessus. Et donc, toutes les voitures allemandes, par exemple, qui sont ici, ils n'arrivent pas en avion, là.
Ils arrivent par bateau.
Ouais. Alors, j'ai hâte de voir, semble-t-il, qu'ils cordent les voitures à 30 cm les unes des autres, sauf les Rolls-Royce. Eux, c'est à 1 mètre de dégagement. Alors, je vais me promener, je vais aller voir tout ça. Vous savez, le commerce maritime, 90 % de ce que vous voyez dans vos maisons est arrivé probablement en conteneur. Alors, c'est essentiel à l'économie mondiale. Alors, c'est un voyage découverte, mais c'est sûr que c'est l'éloge du temps long.
Parce que, écoute, si tu me dis qu'il n'y a pratiquement pas de films, pratiquement pas de vie culturelle, évidemment, tu vas parler avec les employés,
oui, ça,
tu vas
en
apprendre
va
sur leur vie, puis ça va être extraordinaire de voir un peu leur voyage eux-mêmes, parce que c'est une vie très différente de ce qu'on peut avoir. Mais toi, ta famille ne te suit pas là-dedans. Là, tu pars un trip tout seul, ta femme te dit « vas-y, va t'amuser, moi je reste à la maison avec les enfants ».
Oui, ça, c'est la résultante, mais ça s'est pas fait facile comme ça. Là.
J'imagine.
Parce que, évidemment, mon vieux rêve qui lui reste sur la bucket list, c'est de le faire puis de traverser le canal de Panama ou surtout le canal de Suez. Donc là, c'est encore des plus gros bateaux, un trajet beaucoup plus long. Là, par exemple, ça peut être 38, 45, 58 jours. Mais dans la négociation à la maison avec mon patron, ma femme a dit « il n'y en est pas question ». Alors là, on essaie de trouver un compromis là-dedans et il y a une place qui s'est libérée parce qu'habituellement, il faut réserver jusqu'à 6 mois d'avance. Mais
donc
là, à toute dernière minute,
ouais.
Je me suis dit, OK, où est le bout le plus court que je peux trouver en termes de jours? Puis là, ben, c'est entre Liverpool en Angleterre et le port d'Halifax. Et là, c'est à peu près 8 jours. Fait que je vais m'absenter de la maison pendant 10 jours, mais là, je vous dirais que j'ai un peu fait comme le Canadien de Montréal. Là, j'ai échangé mon cadeau de fête de l'année passée, de cette année, peut-être l'année prochaine.
Là. Tu vas être correct pour les prochains jours.
Ouais. Moi, j'ai une petite question. Comment tu trouves ces bateaux-là? Y a-t-il des sites? C'est quoi le...
C'est relativement complexe. C'est pas super organisé. Mm-hmm. Mais maintenant, avec...
C'est pas voyageurcontenant.com, là, tu sais.
Non.
C'est sur Expedia.ca, là.
Pas vraiment. Par contre, il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. On ne peut pas faire affaire avec les armateurs. Par exemple, la compagnie Merckx ou encore CMA qu'on voit des fois là, sur les très gros bateaux. Il y a des agences. Il y a Mer et Voyage, qui est une agence française. Il y a Cargo Ship Voyage, qui est une agence plus anglaise. Moi, j'ai pris celle-là. Et j'ai commencé à les suivre sur Facebook et de voir passer un peu leurs annonces. Nous avons un nouveau départ à telle place. Nous avons un nouveau départ sur tel type de bateau. Et c'est comme ça. Puis là, on contacte l'agence. Puis on dit, bon, mais c'est tel voyage qui m'intéresse. Normalement, ils vous disent, planifiez pour dans 6 mois. Mais là, j'ai été chanceux, j'ai trouvé une place à la dernière minute. Là.
Et Jadrino Huot, est-ce que c'est le genre de voyage que vous aimeriez faire? Parce qu'il y en a eu quand même là, 48 pays, vous avez écrit 3 livres, producteur également de films Passeport pour le monde. Il reste que vous en avez vu des affaires, mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser?
Bien, à vrai dire, j'ai déjà fait des recherches pour justement vivre le même rêve que Guillaume va faire, mais plus avec une notion économie, je te dirais, parce que je crois que Guillaume, lui, c'est d'abord pour sa propre expérience, pour... sa découverte personnelle, alors que des gens qui sont peut-être plus limités au côté budget, on peut jumeler à cette expérience-là un côté travail sur le bateau qui va faire en sorte que nos coûts de subsistance, c'est-à-dire d'hébergement et de repas, vont diminuer ou ça peut même être gratuit dans certains cas. Donc, des gens qui cherchent des options pour dire « je veux aller en Océanie ou en Asie, mais j'ai peut-être pas le budget pour me payer un billet d'avion à 1 500 ou 2 000 $ il y a certaines options avec justement là, des cargos, des porte-conteneurs qui peuvent être disponibles. Moi, ça fait quand même quelques années que j'avais fait des recherches là-dessus. Je ne sais pas si c'est toujours possible, mais je ne sais pas si Guillaume, dans tes recherches, tu as vu quelque chose du genre, mais je sais que ça a déjà existé et que ça existe encore. Je crois bien que oui, parce que toutes ces compagnies-là veulent augmenter leurs revenus et diminuer leurs dépenses. Donc, quand on a la chance justement là, de faire une pierre deux coups comme ça, tant pour le voyageur que pour la compagnie, c'est du gagnant-gagnant.
Mais Guillaume, est-ce que tu vas devenir matelot? Est-ce que tu laves la vaisselle?
Non,
pour payer ton passeport?
Ça, c'est quelque chose qui a quand même évolué. Hein. C'est vrai qu'il y a un peu de temps, il y avait cette idée un peu bohème. Là, on pouvait embarquer sur le bateau puis devenir une espèce de matelot du dimanche, puis laver de la vaisselle, aider, peindre le bateau, etc. Ça, c'est pas mal terminé maintenant, pour des enjeux de sécurité d'abord. Hein. Le 11 septembre a changé beaucoup de choses. Alors, vous ne pouvez pas travailler à bord, ce qui fait que c'est moins économique. Là où ça peut devenir intéressant, puis tu as tout à fait raison, c'est cette idée que le temps à bord peut être utilisé. Par exemple, vous voulez écrire un livre, vous voulez faire une recherche importante pour préparer quelque chose, vous voulez écrire une thèse, vous voulez réfléchir. Alors là, en gros, parce qu'en soi, ce n'est pas économique dans le sens de, écoutez, là, moi, je ne pèse pas tout à fait 200 livres sur un conteneur. Si c'est au poids, je suis correct. Là. Mais la logique, c'est je vous transporte. Pensez que vous voyagez normalement, là. Le coût de votre transport, de votre hébergement et de votre alimentation, combien ça vous coûte par jour? Bien, on est à peu près dans ces eaux-là. Hein, ça va vous coûter à peu près entre 125 puis peut-être 160 $ par jour. Ça va varier du type de cabine, etc. Mais c'est vraiment, ce qui est fascinant, c'est que d'habitude, quand on voyage, le temps de déplacement, c'est du temps perdu. On voudrait, je veux aller en Italie, bon, mais je voudrais me téléporter en Italie demain.
Ça aille vite, là. Ouais.
Là, c'est le contraire. C'est le voyage, c'est le déplacement qui, en soi, devient l'expérience. Alors, c'est ça qui va être intéressant.
Benjamin Rochette, la plupart de tes voyages, c'est fait avec le surf. T'en as fait énormément aussi. Est-ce que ça ressemble un peu... Guillaume, évidemment, on ne peut pas toujours aller sur un bateau comme ça.
C'est pareil, c'est pareil. On fait tout le temps ça en cas de
neige. C'est ça. Mais j'imagine que vous êtes quand même dans les endroits moins connus aussi, des endroits que c'est moins touristique.
Ben oui, en fait, le but du surf, c'est de trouver tout le temps la vague parfaite, la vague mythique, la vague secrète aussi. Fait qu'on est toujours un peu poussé à aller plus loin, aller hors des sentiers battus, en fait. Fait que oui, on a beaucoup... c'est beaucoup une recherche de... Puis surtout maintenant, en 2018, et tout l'Internet, tout ça, les spots de plus en plus sont devenus populaires. C'est beaucoup plus difficile de trouver la petite perle rare. Fait que oui, on est toujours un peu poussé à aller plus loin, chercher à aller voir... Ou est-ce que les gens pensent que c'est une mauvaise idée d'aller?
Généralement, pour vous, c'est une bonne idée.
Ça peut être une mauvaise idée, mais généralement, oui.
Dans les voyages les plus différents que vous avez faits, ça peut ressembler à quoi?
Bien, tu sais, c'est différent dans le sens que... Parce que ça dépend, pour moi, ça peut être assez normal, mais Madagascar, je suis allé faire un tour à Madagascar.
Monde,
oui,
là,
mais c'est
oui.
Pas tout le monde, mais c'est quand même assez... Quand tu arrives sur place, c'est quand même assez accessible. On était à Fort Dauphin, puis quand même une compagnie d'aluminium québécoise, il y a beaucoup de Québécois qui sont là-bas.
Exact.
Quand tu arrives, puis c'est quand même... Tu te dis, bon, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Sinon, ben, nous, on avait trouvé un endroit qui était vraiment reculé, qui était à 300 km de voiture, mais... C'est 300 km, c'est Québec-Montréal environ, mais ça prenait 2 jours se rendre là, avec des routes vraiment difficiles d'accès. Puis surtout, on avait comme une moitié de route qu'on découvrait un marché de zébus, parce que là-bas, les Malgaches, ils ont plus confiance à l'argent, aux zébus, qui est un genre de vache sacrée, que l'argent ou les banques. Fait que c'est...
Un autre moyen de marchander, ça.
Exactement. Puis nous, on arrivait dans une genre de négociation, un peu comme la bourse malgache de Zébu. Puis on était les seuls blancs qui étaient sur place. C'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre de sentiment-là puis de réaction des gens sur place. Fait que si on peut parler de voyage inusité, ça peut être ça. Puis on est arrivé sur place où ce qu'on était, c'est à Lavanono, un endroit où, pour surfer la vague, il fallait demander au chef du village de la permission, parce que c'était dans un genre d'endroit où tous les pêcheurs revenaient avec les bateaux à voile. Donc, il y a comme un genre de trafic qui se faisait. Il fallait demander la permission avant, tout ça. Puis on avait été voir la magie, un genre de sorcier de magie noire pour nous. Pour nous essayer de savoir si on allait avoir des vagues, si ça allait nous prédire des bonnes conditions.
Écoute, il y a un film à faire avec ça, franchement.
Ben, il y a une émission sur Évasion là-dessus.
Exact, ouais.
Maintenant, sur YouTube, si vous voulez aussi, on l'a...
On va aller voir ça. Puis on invite d'ailleurs les auditeurs à nous parler de leur voyage hors de l'ordinaire. Peut-être des suggestions aussi des trucs, parce qu'évidemment, il y a de l'organisation derrière tout ça. Il y en a qui vont partir, qui vont... j'ai vu quelqu'un d'ailleurs arriver à l'aéroport, dire « Bon, okay, je m'en vais à quel endroit? OK, je m'en vais à Prague. » Donc, prendre un billet pour Prague. Puis une fois rendu là-bas, je m'organiserai. Il y a ça aussi. Puis qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce type de voyage? 1-866-790-98-50-514. 790-98-50. 10h22, on parle de voyager différemment et combien ça peut coûter aussi. Parce qu'évidemment, quand on parle de voyage, dès qu'on sort de l'ordinaire, ça ne veut pas dire que ça va coûter extrêmement cher, mais il reste qu'il y a un coût en temps, un coût en argent aussi et en préparation. Jadrino Huot, quand on parle justement de voyager comme ça, ça demande une certaine préparation et ça demande aussi d'avoir peut-être des qualités différentes. Tu sais, quelqu'un qui aime les 5 étoiles, qui est un peu princesse, que ça y prend ses activités le soir, son petit drink rose, c'est peut-être pas fait nécessairement pour eux.
Bien, je pense qu'il y a deux qualités à avoir, Catherine, dans ce type de voyage-là. C'est la flexibilité puis la débrouillardise. Parce que naturellement, on s'en va hors des sentiers battus. Il n'y a peut-être pas toutes les infrastructures que l'on souhaite ou même de base. Donc, il faut vraiment faire le plus de recherches possible. Et Dieu merci, de nos jours, grâce à Internet, là, c'est assez facile de trouver là, de l'information sur même des coins reculés à travers la planète. Et la débrouillardise aussi, parce qu'une fois rendu sur place, bon, bien, il y a bien des choses choses qui peuvent déraper, mais il faut être prêt à justement à réagir en conséquence. Mais je pense que c'est ce qui fait la beauté des voyages quand on sort justement un petit peu de ces sentiers battus-là. On lisait dans le Figaro récemment là, que 95 % des touristes de la planète se retrouvaient dans 5 % des sites à travers le monde. Donc, tout le monde se rejoint aux mêmes places. Quand on sort un petit peu de ces sites-là, c'est là qu'on découvre vraiment un pays et c'est là qu'on découvre vraiment les gens tels qu'ils le sont, tels qu'ils vivent dans leur quotidien. Et ça, pour moi, c'est vraiment fascinant.
C'est vrai que quand on va dans les places trop touristiques, à part rencontrer des gens des autres pays, mais pas les gens de la place, c'est pas mal ça les rencontres que tu vas faire finalement. On parlait justement de ces compagnies qui vont vous charger pas mal moins cher pour les billets d'avion. On a vu un bel exemple d'ailleurs dans les derniers jours avec la compagnie Level qui est arrivée ici à Montréal il y a quoi, 2 semaines et qui a laissé 800 personnes en plan après 2 reports de vol, 2 annulations de vol. Quand on fait affaire justement avec ce type de compagnie, parce qu'évidemment on veut économiser de l'argent, là, c'est pas mal le but là, quand on part en voyage, là, à moins d'en avoir trop à dépenser. Il reste que faut quand même faire attention, j'imagine. Et comment faire confiance à ce type de compagnie-là, Jadrino?
Bien, surtout des compagnies qui sont nouvelles encore, qui n'ont pas eu leur premier vol, leur vol inaugural. Il faut faire vraiment, vraiment attention parce que ces compagnies-là vont fonctionner par Internet. Donc, on va acheter nos billets de façon électronique. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on a peu de recours, à moins d'avoir une protection quelconque sur sa carte de crédit. Mais encore là, il faut avoir une carte de crédit souvent là, élite ou platine pour pouvoir bénéficier de ces remboursements-là ou de ces annulations de frais. L'autre chose aussi, c'est de vérifier avec sa compagnie d'assurance. Parfois, on peut contracter une assurance qui va nous permettre justement là, d'être protégé en cas d'annulation, en cas de fermeture imprévue ou quoi que ce soit. Donc, c'est des petits trucs qu'il faut regarder, mais il faut toujours faire attention là, avec ces compagnies aériennes-là. C'est des compagnies aériennes qui sont fragiles en termes financiers et donc qui peuvent là, vraiment là, nous causer des mauvaises surprises du jour au lendemain.
Oui, parce que quand on regarde un vol Montréal-Paris à 230 $, ça peut être tentant quand même.
T'sais, posez-vous retours, des questions. Ouais, ouais. Posez-vous des questions. Si c'est à 230 $, soit qu'on essaie justement de créer une espèce de fonds de roulement en vendant plus de billets possible, puis ensuite on voit si on peut opérer avec le fonds de roulement qu'on a obtenu au départ, ou encore là, on veut faire une publicité monstre pour faire connaître la compagnie. Il y a ce côté-là qui peut être positif, mais encore une fois, là, il n'y a jamais de fumée sans feu.
Il y a souvent les frais cachés aussi à ce genre de montant-là.
Effectivement, comme WOW Airlines qui s'est installé à Montréal il n'y a pas longtemps et qui dessert pas mal toute l'Europe via Keflavik en Islande, bien effectivement, il n'y a aucun bagage qui est inclus. Il faut rajouter des frais pour les bagages, pour la sélection de sièges, pour les repas, etc., etc. Donc, quand on calcule tout, en bout de ligne, c'est pas nécessairement plus économique. Donc, encore une fois, ne pas, et ça c'est un bon point que Benjamin soulève, ne pas nécessairement se laisser impressionner juste par le prix de base, mais regardez ce que ça inclut ou ce que ça n'inclut pas. Si vous voyagez juste avec un sac à dos, un petit sac à dos, ça va bien, mais si vous partez avec vos 3-4 valises, là, ça peut vous revenir pas mal plus cher et pas mal moins confortable qu'un autre voyageur aérien.
Mais comment justement vous planifiez, vous choisissez le transporteur ou votre voyage? Parce qu'évidemment, on veut quand ça nous coûte moins cher. Est-ce que vous faites des escales? Est-ce que vous regardez sur différents sites Internet votre façon de faire?
Guillaume,
on va parler à Guillaume,
Vas-y, Guillaume. Je viens juste le faire, moi, par exemple, parce que comme je reviens d'Europe en bateau, j'ai juste seulement besoin d'un aller simple. Alors, je cherchais un aller simple. Puis là, j'ai un peu de temps parce que dans le monde maritime, il n'y a pas de date claire. Mon bateau, il part quand il part.
OK, donc ça se peut qu'ils partent plus tard, plus tôt.
Plus tôt, ça dépend des barrées, de la tempête, etc. Il faut que j'arrive un peu en avance. Fait que je me suis dit, OK, quand je voyage pour le travail, il faut que j'arrive précisément à telle heure, puis dans la vraie ville. Là, quand on prend les compagnies low cost, habituellement, c'est comme si c'était à Montréal, c'est comme l'aéroport de Saint-Hubert. Il faut que tu y ailles à Saint-Hubert. Alors, bien sûr, là, je m'en vais, par exemple, à Londres, ça va me coûter 412 $.
Aller.
Mais aller seulement, ce qui n'est quand même pas une somme déraisonnable, considérant que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de repas fourni. Je ne peux pas embarquer tellement de bagages. Je m'en vais surtout à l'aéroport de Gatwick, qui est vraiment pas proche de Londres. Il faudra prendre un train pour ça. Alors, tout se paye. Habituellement, là, vous le payez en dollars, vous le payez en minutes. Là, vous choisissez. Alors, ça se paye, ça, le temps.
Quand on dit le temps, c'est de l'argent.
C'est exactement ça. Vous voulez dire, moi, je veux, par exemple, si vous allez en Italie pour les vacances, j'ai une semaine de vacances, je veux passer le maximum de mon temps en Italie. bon, ben, trouvez-moi un vol direct, puis là, je vais payer pour ça. Mais c'est le fun de voir l'éclatement de l'offre, hein, plus diversifié. Il y a des gens qui ont plus de temps, puis il y a des gens qui ont plus de sous. Puis là, ben, ils ont chacun un service pour eux, là.
Benjamin, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu regardes ça avec quand tu pars? Parce que là, t'es ben, ton surf, ta planche.
Le surf, ouais, c'est vraiment...
Ouais, ça rentre pas.
Ça rentre pas dans un sac à...
C'est un peu la surprise. Des fois, ouais. Le surf, ça coûte cher. Des fois, ça coûte moins cher. Ça dépend du sourire que tu fais à la personne au comptoir, si elle a passé une belle journée. Il y a beaucoup de facteurs humains, même, que des fois, c'est difficile à gérer. Mais c'est sûr que pour nous, les recherches, ça fait... Le surf se fait en fonction des saisons, des périodes. Donc, on peut pas vraiment... faut choisir. Puis souvent... ça dépend des endroits, mais ça peut être plus cher à cause que la saison des vagues, bien, ça apporte plus de gens, fait que là, il augmente les prix. Google Flight, c'est quand même une très bonne façon de faire des recherches. Puis suite à ça, quand tu trouves le billet que tu veux, tu vas voir carrément sur la compagnie aérienne directement. Il y a aussi des fois peut-être un petit rabais qui va se faire, mais c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de secret. Si Google Flight annonce ce genre de prix-là, tu ne trouveras pas vraiment moins cher, à moins que tu aies des petits tours de passe-passe, comme en ce moment, il y a des sites un peu comme... Yule, Vol d'Alexis, même sur notre site web aussi, oui.surf, on a une page pour annoncer les genres de deals qui arrivent derrière une minute ou des erreurs de compagnies aériennes qui font en sorte que pendant 2-3 jours, une semaine, le billet il est vraiment pas cher. Puis avant qu'ils s'en rendent compte, tu peux l'acheter.
Mais ça, c'est garanti, c'est-à-dire que même s'il y a une erreur, tu l'as acheté, tu peux quand même partir. Puis
tant que c'est acheté, c'est eux qui vont subir les pertes. Donc, c'est un peu... Il y a ce genre de façon-là de voyager aussi, de trouver des tickets. Fait que c'est vraiment un peu constamment une recherche sur Internet. Quand t'es un voyageur, ben t'es tout le temps un peu abonné à ce genre d'infolettes-là. Puis là, tu reçois des clics. Puis là, des fois, ben des comme... Ouais, on sait du coup, on va y aller. Ou sinon, il reste toujours comme un peu le... Je serais le d'y aller au feeling. Des fois, l'argent, c'est intéressant de voyager à moindre coût, mais rendu sur place. Des fois, il y a des voyages qu'il faut que tu fasses, puis peu importe, ça va coûter combien, il faut que tu le fasses. T'sais.
C'est lequel que tu as dit? Ben, ça m'a coûté bien cher, mais ça valait la peine.
Japon.
Ah oui?
Ouais. Japon, c'était pour aller dans l'émission de We Surf en Asie, puis c'était comme un deal breaker. C'est genre, faut absolument qu'on y aille, parce que les producteurs étaient comme, c'est trop cher, les gars. J'étais comme, non, si on va pour le Japon, on fait pas l'émission. C'était un peu ça. Puis on a été vraiment chanceux.
Puis pourquoi le Japon en particulier, ça a été le voyage quand même? Mais évidemment, on sait que c'est dispendieux, juste le billet d'avion, là, on s'entend. Là, c'est difficile d'avoir un low cost quand tu te rends au Japon. Là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que rendu sur place, ça a été un voyage extraordinaire?
Ben c'est la culture japonaise, c'est la bouffe, c'est les paysages, surtout que les gens, tu pars au Japon faire du surf, c'est pas quelque chose que ça sonne dessus dans leur tête, surf Japon.
Je penserais pas à ça, non.
Puis honnêtement, c'est vraiment, on a eu vraiment les bonnes vagues en plus, c'est dans la période des typhons, on a traversé aussi toute la côte en van, on avait des amis canadiens qui étaient là-bas, qui nous ont fait un genre d'itinéraire complètement... parfait pour le surf. Puis on a traversé aussi avec un traversier pendant... c'était comme le dernier traversier avec le typhon arrive qui le laissait partir.
Donc ça a brassé un peu.
Ça a brassé pas mal. On est arrivé à Tenegashima, une petite île entourée justement de ce typhon-là. Puis notre contact sur place était le seul caméraman / intervieweur météo qui se filmait en expliquant qu'il y a un typhon. Puis c'était un surfeur avec son téléphone cellulaire dans un Ziploc, dans son wetsuit. Puis quand il reçoit un appel, il faut qu'il sorte de l'eau pour aller faire un report pour la chaîne météo. Fait que ça a été vraiment une expérience magnifique. On a mangé du sashimi de poulet cru.
T'as essayé ça? Ouais. Non, ça, c'est une autre affaire. Hein?
Mais j'écoute ton récit. Puis c'est là qu'on voit que les meilleures expériences de voyage sont celles qui laissent la mémoire la plus vive. Puis c'est assez rare que la mémoire vive n'est pas associée à quelque chose de personnel, d'hors de l'ordinaire. Si tu t'en vas prendre la photo de la Tour Eiffel, je veux dire, il y en a plein sur Internet, là. C'est pas particulier, ça.
Mais c'est quelque chose
tu peux la découvrir d'une manière différente. Moi, je ferais la Tour Eiffel avec les ingénieurs en charge de l'entretien. Là, je trouverais ça le fun. Là, j'aimerais ça. Ou avec les peintres qui doivent la repeindre à chaque 3 ans. Ça, c'est intéressant. Même chose. Puis d'ailleurs, moi, j'ai fait la visite du pont Jacques-Cartier. Avec les gens du pont, j'ai trouvé ça fascinant. Mmh. Pourtant, quand tu passes dessus, ça n'a pas d'histoire. Toutes les choses ont une histoire, ici comme ailleurs, mais c'est de trouver cet angle-là et c'est ça qui change le voyage, c'est ça qui change l'expérience.
Mais c'est la curiosité, toi, tu veux aller au fond des choses, c'est un peu ça aussi, quand tu t'en vas dans un pays,
curieux,
il faut que tu veux découvrir vraiment les mœurs puis les locaux, comment ils vivent, c'est là que tu vas avoir les meilleures expériences aussi.
L'émotion aussi reliée à ça, parce qu'évidemment, quand on en parle, on revit aussi en même temps ces émotions-là. 10h33, on s'arrête quelques instants. On poursuit la discussion avec Guillaume Lavoie, Jadrino Huot et Benjamin Rochette sur les voyages, des voyages qui sont différents, hors de l'ordinaire. Si vous avez d'ailleurs des voyages à nous suggérer ou vous pensez, ça, c'est tellement un beau voyage, pour nous dire justement pourquoi. 1-866-790-9850-514-790-9850. Et vous pouvez également toujours nous écrire via le web ou encore les médias sociaux. 1-866-790-9850 pour parler de vos aventures de voyage et aussi vos trucs, pourquoi pas. Et avant justement de faire la pause, on parlait de tous ces voyages d'aventures que l'on peut faire, que l'on peut vivre et qu'on peut vivre émotivement aussi après les avoir faits. Et Benjamin, toi, tu as eu un hôtel au Salvador pendant 3 ans. Donc, tu as pu vivre la culture locale et recevoir aussi des Québécois qui sont allés sur place.
On a eu beaucoup de Québécois sur place. En fait, j'étais copropriétaire de l'hôtel avec Olivier Dubois, c'est lui le fondateur. Et on recevait beaucoup de Québécois. Puis comment je pourrais te dire, ce que j'ai remarqué à travers mon expérience, c'est que les Québécois aventuriers, le type de voyageurs québécois que moi je faisais affaire avec, c'est vraiment des bons voyageurs. C'était des gens qui n'étaient pas gênés d'aller parler aux locaux, même s'il n'y avait pas un bon espagnol, ou même des fois quand l'espagnol était tout croche. Mais tu sais, c'est juste le fait de... Ils sont pas gênés, ils sont curieux, polis aussi. Ils sentent pas qu'ils arrivent dans une terre conquise aussi. Fait que c'est vraiment comme... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à les Québécois avec qui j'ai fait affaire, que c'est vraiment des bons voyageurs.
Et des Québécois, donc, qui apprenaient davantage la culture locale que quand tu vas dans un tout-inclus aussi.
Ils sont curieux aussi, c'est ça qui est le fun. Ouais.
C'est correct d'aller dans un tout-inclus, il n'y a aucun problème avec ça, mais des fois, tu as envie de peut-être vivre autre chose, justement. Quand on a des enfants, est-ce que ça change un peu la perception de ces voyages d'aventure-là? Parce qu'évidemment, il y a le côté plus sécuritaire. Jadrino Huot, dans les recherches que vous avez faites, est-ce que justement, quand on part avec les enfants, ça doit être différent? Parce qu'on en voit quand même des familles qui décident de quitter, de faire le tour du monde, soit en bateau. J'en ai vu à bicyclette également.
Bien, on va voyager, je pense, plus différemment, dans le sens que peut-être que les distances vont être plus limitées, qu'on va s'assurer toujours d'avoir des petites collations à portée de main, des choses du genre. Mais moi, je vois pas de contraintes d'aucun égard là, à ce qu'une famille puisse faire les mêmes destinations ou voyager hors des sentiers battus. Je pense que même au contraire, j'encourage ça, même peut-être en débutant tranquillement. Comme tu viens de le mentionner, là, il y a des gens qui vont quasi à toutes les années dans des tout-inclus, mais pourquoi ne pas faire 1, 2, 3 sorties à l'extérieur des murs du tout-inclus pour un peu vivre le pays et apprendre justement progressivement à connaître ce côté-là un petit peu plus différent de ce qu'on connaît là, en général. Donc oui, allez-y, n'hésitez pas, mais encore une fois, pour moi, ça demeure de faire des recherches et de savoir dans quoi on s'embarque ou on peut s'embarquer.
Et il y a d'ailleurs Hélène qui nous écrit pour me dire que son plus beau voyage, c'est un voyage humanitaire à Haïti. Parce qu'elle a bâti une école, elle a aidé à bâtir une école. Donc, il y avait le sentiment également d'aider la population, de se mêler aux gens d'ailleurs sur place, de manger, de dormir. Peut-être pas dans un hôtel qui a de l'allure, mais au contraire, justement, de vivre la réalité des gens sur place. Donc, ça aussi, ça peut être une optique. Et je sais que dans les écoles aussi, on propose davantage maintenant les voyages humanitaires. Je sais qu'il y a toujours des voyages extraordinaires qui sont faits dans plusieurs écoles. Mais d'avoir cette optique-là aussi, je pense que ça peut ouvrir également les yeux de bien des jeunes et les pousser peut-être à sortir de leur confort. Parce que c'est quand même ça, c'est-à-dire que le confort, on ne l'aura peut-être pas nécessairement quand on décide de faire des voyages d'aventure.
Oui, puis ça change beaucoup, là. C'est assez extraordinaire. Bon, évidemment, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais quand j'étais petit...
Magnifique région, je viens du
Saguenay. Belle. Ah, bon, c'est pour ça qu'on s'entend si bien.
En bleu, écoute.
Pas moi, désolé.
La première, la grosse visite qu'on faisait, c'était d'aller à Québec, là. C'est bien le fun. Oui, alors, quand je vois aujourd'hui les jeunes qui préparent leur vie, par exemple, ma mère, qui est une enseignante, a accompagné des étudiants pendant, je pense que c'était là, 5 semaines ou quelque chose comme ça, au Sénégal, à faire justement du travail humanitaire. Les voyages forment la jeunesse, mais là, c'est vraiment ça. C'est pas juste d'aller se glisser là, dans une autre ville, c'est d'aller vivre une expérience. Puis ça, mais ça prend du temps. Hein, tu peux pas t'imbiber, comprendre une société, la voir, la vivre si tu y vas pendant 24 heures. Mmh. Alors, c'est bien de pouvoir passer du temps aussi.
On va prendre quelques témoignages au téléphone. Jean-Marc est avec nous. Bonjour. Bonjour, oui. Jean-Marc. Oui, allez-y.
Oui, bonjour. Ben, moi, après ma retraite, j'ai décidé de faire un voyage. J'ai fait Vancouver et Montréal à vélo.
Oh. Wow!
Hey, vous êtes motivé?
Oui.
Ça fait combien de temps?
Oui, mais c'est ça que je me demandais.
J'ai roulé 45 jours, j'ai été parti 51 jours. J'ai pris 6 jours de congé durant le tracé.
Puis qu'est-ce qui vous a motivé, Jean-Marc, à faire ce trajet-là?
J'ai toujours fait quand même assez de vélo. Puis là, bon, mes compagnons de travail me demandaient qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite. Là, je commençais à dire ça. Là, à force d'en parler, bon, ça devient plus une réalité. Tu te mets à t'entraîner pour ça. Là, tu t'achètes le vélo pour, en conséquence, ça te prend un cyclotouriste. Puis par la suite, bon, le dernier achat, c'est le billet d'avion. Bon, si je le fais pas, je fais un voyage à Vancouver. Ce qui fait que par la suite, là, c'est ça. Je l'ai fait, je suis parti le 15 mai. Je suis arrivé ici au début juillet. La troisième journée, j'ai tout eu. J'ai eu de la pluie, de la grêle et de la neige.
Puis là, ça vous a pas découragé, ouais. Vous avez continué quand même.
Ah, j'étais découragé, oui, je suis
arrivé.
Oui. Avoir eu quelqu'un qui veut m'embarquer, je pense que j'aurais embarqué. Mais le lendemain, là, je traversais les Rocheuses. Le lendemain, j'arrivais à Osoyoos, qui est à l'extrême sud-ouest du Canada. Les gens se baignaient.
Ah, là, ça vous a encouragé à poursuivre,
oui. Ah oui. La vallée de Canagan, j'ai trouvé ça merveilleux. Les gens trouvent que les prairies sont plates. Moi, j'ai adoré ça.
Surtout pour un cycliste, c'est plus facile que les Rocheuses.
Oui, c'est ça. L'Ontario était très difficile. L'Ontario, on pense que c'est grand. On pense que c'est pas coteux. La partie nord-ouest de l'Ontario est très coteuse. Il y a une journée, entre autres, j'ai monté l'équivalent de 1300 mètres avec un vélo qui pesait 75 livres. Ce qui fait que ça n'a pas tout le temps été des belles journées. Rouler des journées sous la pluie complète, je l'ai fait.
Mais Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez appris de ce voyage-là? Parce que quand même, 45 jours, plus de 50 jours partis, fallait le faire à la retraite aussi, loin du confort. Est-ce que vous couchez dans des hôtels? Comment vous organisiez?
Je voyais 2-3 jours d'avance où j'étais pour coucher. Parce que, dépendant des distances que j'étais pour parcourir, je couchais dans des motels. Ça n'a pas tout le temps été les plus beaux endroits. Il y a 2 ou 3 endroits où je me suis payé un peu plus de luxe. Mais sinon, c'était des motels. C'était tout le temps propre. Moi, les questions que je posais quand j'arrivais, je demandais, as-tu un bon Wi-Fi? La chambre est-tu propre? Y a-t-il des restaurants autour? Il est où le liquor store?
À la fin de la journée, c'était nécessaire, surtout le liquor store.
Oh, la bière est la bonne, hein, maudit.
Et là, Jean-Marc, est-ce que ça vous a donné l'idée de faire d'autres voyages?
Maintenant, je suis en couple. Puis là, avec ma blonde, la semaine prochaine, on s'en va faire la vallée du Niagara. C'est moins long comme tracé, mais c'est un tracé à environ 400 km qu'on s'est fait en 5 jours. Visiter les vignobles. Puis l'année passée, j'ai fait le Saguenay-Lac-Saint-Jean que vous parliez tantôt. J'aime voyager à vélo. C'est la plus belle façon de voyager. C'est mon père qui me disait quand tu te promènes en auto, tu vois le paysage défiler devant toi.
Oui.
À vélo, tu trouves ça beau, tu prends le temps d'arrêter, de le regarder, puis après tu te reposes un peu, puis tu repars.
Bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Bonne visite dans la vallée du Niagara. Bon vin également. Bertrand, oui. Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez fait un beau voyage également en Basse-Côte-Nord, en bateau.
Écoutez, en Basse-Côte-Nord, premièrement, je dois vous dire que c'est la première fois, que j'appelle. Et puis
bienvenue.
Que Guillaume rencontre mon profil à 200%.
Ah oui.
Alors, j'avais une question pour lui, mais on m'a dit d'abord, qu'est-ce que vous avez à nous parler? Fait que finalement, il va falloir que je vous parle. Sans faire de publicité, là, je suis allé avec Relais Nordique, qui appartient à la compagnie Degagné, qui approvisionne toute la Basse-Côte-Nord, je pense, peut-être 11 ou 12 mois, 10 ou 12 mois par année, parce que ça dépend des glaces. Et puis, mon but était de m'inscrire le plus tôt possible pour être à peu près seul passager sur le navire qui est à la fois un porte-container, mais tant qu'il était aussi construit avec, je pense, 60 chambres, pour accueillir quelques 161 passagers. Alors, au début avril, le deuxième voyage, parce que je pouvais pas être du premier, on était 4 passagers. Alors, pour vous êtes vous dire qu'à la salle à manger, on mangeait 5 étoiles. Et puis, j'ai participé à toutes les opérations de chargement, déchargement au pont dans tous les petits ports. Exemple, Tête à la Baleine. Vous êtes sûrement familier avec le port de Tête à la Baleine. C'est un petit village sans accès routier, uniquement skidoo et puis 4 roues l'été. Et puis, tranquillement, on s'est rendu à Blanc-Sablon. Aller-retour. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est qu'il y a une journée où on revenait, en revenant, à Anticosti, on a pris de gros vents. Et puis moi, j'avais la cabine panoramique à l'avant. Et puis, ça fouettait énormément. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, là, j'avais pas besoin de pilules. J'avais pas de mal de mer.
Ah, ben là, c'était le truc, hein? Ouais.
Pardon?
Là, c'est sûr qu'avec tout ça, là, si vous aviez pas le pied marin, là, avec les rafales et tout, là, une fois sur la mer, là, ça brassait pas mal. Vous aviez une question, Bertrand, pour Guillaume?
Ben, j'avais une question pour Guillaume parce que là, mon objectif, puis de toute façon, si j'ai bien compris, son profil est un peu fouineux. Moi, quand je suis allé faire une grande visite à Paris, j'ai manqué les égouts de Paris. En passant, parce qu'il y avait un tour guidé toute la patente, et puis finalement, j'ai réalisé que c'est parce que je me suis laissé influencer par mon groupe, j'aurais dû passer une journée à visiter toute la vignerie des égouts de Paris. Alors, je termine là-dessus. Guillaume, est-ce que, puis mon prochain voyage, je veux vraiment embarquer avec la navire marchande et puis traverser l'Atlantique. C'est bizarre, puis je vous écoute ce matin, comme très souvent. Alors, est-ce que je peux, as-tu un site, Guillaume, où je peux avoir l'information quant à, un, la réservation du vol qui t'a amené là, à Gatwick ou je sais pas quoi, te rendre après ça à Londres, puis après ça, c'est de Liverpool, je pense, où tu es parti?
Oui, alors, d'abord, merci beaucoup. Puis en plus, merci pour l'information sur le bateau au Québec. Je l'ai noté, là, ça va être dans... ça tombe sur mon bucket list. Ma femme sera pas contente.
Oui, c'est ça, t'as une petite négociation.
Oui, là, il va falloir que j'attende quelques années pour renflouer mes choix repêchage.
Tu veux l'amener, tu sais?
Oui,
ouais,
ça, c'est une idée.
Pas, ouais.
Merci. Quelle belle suggestion.
De rien, ça fait plaisir.
Alors, pour les vols, moi, j'utilise aussi Google Flight. Je trouve que c'est ça qui me donne le plus de marge de manœuvre. Pour les bateaux, moi, je connais deux agences. Il y en a peut-être plein, là. Il y a Mer et Voyage et il y a Cargo Ship Voyage. Je recommande d'utiliser Facebook pour les trouver. Moi, c'est par ça que je les ai utilisés. C'est les deux plus importantes, à ce que je comprends. Il faut réserver longtemps d'avance, donc c'est vraiment plus agréable et plus fun si vous êtes retraité parce que là, vous êtes plus maître de votre temps et toutes les routes sont possibles. Et si vous voulez que ça brasse, l'Atlantique Nord, ça brasse encore plus l'hiver.
Ben, bonne chance, Bertrand. Merci pour votre appel. On poursuit d'ailleurs la discussion via le 1-866-790-9850 après la pause. Et moi, je vous avoue, entendre parler de voyage comme ça, j'ai tellement le goût de partir. Ça donne des idées, puis ça nous fait voyager, nous aussi, même si on reste à Montréal ou encore à Gatineau à travailler. On va parler avec Jean-François qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
À quel endroit vous voulez partir, Jean-François?
Ben nous autres, on part dans deux semaines pour la Malaisie, avec la Malaisie et le Cambodge, avec les enfants. Puis, dans le fond, moi, je voulais juste appeler pour dire merci à Benjamin, parce que c'est vraiment lui, avec son émission, WeSurf, qui nous a donné la passion de voyager puis qui nous a sorti de notre zone de confort.
Ben, merci beaucoup. C'est chaud au cœur.
Ah oui, on a suivi ça religieusement, l'émission avec les enfants. Puis les enfants étaient jeunes dans ce temps-là. Puis on était plus des voyageurs de tout inclus.
OK.
Et puis on s'est dit que, écoute, on s'est acheté des sacs à dos. Puis on a commencé tranquillement avec les enfants à Costa Rica. On a fait le Nicaragua, puis là, ben les enfants ont vieilli un peu, sont rendus à 10 puis 13, puis on a dit l'Asie, ce coup-là, fait qu'on donne le grand coup, on va essayer ça, la Malaisie puis le Cambodge.
Fait que ça se peut de voyager avec ses enfants, c'est pas un mythe, là.
Ah non, non, nous autres, c'est les tout inclus, c'est terminé, là. Les gars, les deux gars, quand on est allé au Costa Rica, on a fait le tour et puis on leur avait gardé 4 jours dans un tout inclus au Liberia pour la fin du voyage, pour les gâter. Puis non, ça n'a pas été une bonne idée. Ils ont préféré de beaucoup faire de ville en ville puis de voir toutes sortes de choses. Non, moi, c'est fini pour nous, les tout inclus. Mais
Jean-François, qu'est-ce que vous avez aimé justement dans vos visites, notamment au Costa Rica avec le sac à dos avec les enfants? Qu'est-ce qui vous a plu davantage?
Ben nous autres, c'était principalement pour aller faire du surf. C'était vraiment suite à l'émission qu'on s'est dit, OK, on décolle une nouvelle passion. Ça a été bien pour mes enfants. Moi, ça ça a moins bien été, mettons. J'ai encore de la misère à tenir debout, mais c'est pas grave, juste les voir puis partir avec eux autres à l'aventure. C'est vraiment ça qui nous a plu. Fait que c'est vraiment de découvrir. Là, on part sans itinéraire vraiment précis, puis au jour le jour. Fait que c'est ça qu'on aime.
Puis vos enfants ont quel âge maintenant?
Ils ont 10, ans, 10 et 13.
Okay, 10 et 13 ans. Puis la préparation, est-ce qu'elle est différente? Parce que là, vous avez les enfants, donc vous devez quand même vous assurer une certaine sécurité.
Bien, pas nécessairement, non. Je vais vous dire. On est peut-être un peu imprudent là-dedans, mais c'est sûr que je lis beaucoup. Je lis beaucoup, beaucoup de blogs. On s'aventure pas à des places qui sont pas conseillées non plus. Mais on se laisse beaucoup de liberté. Là. On visite tout, puis j'adore ça.
J'aime ton style, Jean-François. J'aime vraiment ton style.
Ça rejoint Benjamin.
Ouais, beaucoup.
Il y en a pour tout le monde.
Je pense qu'on a fait une bonne job avec WeSurf. Merci.
Ben oui, mais
tu as compris.
Ah oui, définitivement pour nous, en tout cas.
Ben merci beaucoup, Jean-François, puis bon voyage en Malaisie puis au Cambodge avec la famille.
Ben merci beaucoup, bonne journée.
Puis bon
merci
surf, salut.
Oui, bon surf, ouais. Puis c'est rendu les enfants qui sont meilleurs que le papa. T'sais. C'est lui qui a parti la passion.
C'est souvent ça.
Ça arrive vite, ça.
Oui, c'est ça. Éric, bonjour.
Bonjour.
Oui, est-ce que vous avez fait...
Alors,
allez-y.
Moi, c'est beaucoup moins exotique que votre précédent interlocuteur, mais moi, j'ai profité d'un voyage d'affaires de ma conjointe pour la suivre à Paris. Et j'ai eu 2 jours tout seul avec ma fille de 2 ans en rollerblade dans Paris avec une poussette jogger là, comme on peut voir là, ici au Québec. Et ça a été une très belle expérience. Puis je pense que les conducteurs d'automobiles à Montréal devraient apprendre des Parisiens parce que le respect là-bas du vélo et de la marche, je pense que c'est aussi safe. Je suis de Drummondville, c'est aussi safe à Paris dans les villes en rollerblade et en vélo qu'à Drummondville.
Tant que ça.
Oui, ah oh oui, puis mais c'était une très belle expérience. Puis ça, c'est pas tout à fait sortir de ma zone de confort parce que je fais ça ici à Drummondville. Mais c'était vraiment très agréable de se promener là-bas. Là.
Mais la zone de confort de quelqu'un est peut-être pas au même point que quelqu'un d'autre qui est prêt à aller plus à l'aventure. Puis c'est correct aussi, quelqu'un qui a jamais ou qui a pas beaucoup voyagé. Non, mais aller à Paris dans une grande ville quand t'es de Drummondville, c'est déjà un voyage en soi aussi, là.
Oui, surtout en rollerblade, ça, c'est un voyage.
Ouais, mais j'ai vu, sérieusement, là, j'ai jamais vu d'hommes promener leurs enfants là-bas, parce que on me l'avait dit, là-bas, les hommes ne s'occupent pas de leurs enfants ou ne sont pas très familiales, c'est ce qu'on m'avait dit, fait que j'ai quand même jeté un œil là-dessus.
Certains, oui.
J'ai vu deux gars en rollerblade sur toute ma ride que j'ai faite. Je roulais à peu près 50 ou 55 km en tout en 2 jours dans Paris. Mais ça a été une super belle expérience. Puis même à vélo, quelqu'un qui veut se promener, puis tout est proche quand même. Là.
Ouais,
moi,
je me
promenais entre le jardin de Luxembourg, la Tour Eiffel et je suis allé aux catacombes, je suis allé voir le Bataclan, je suis allé au cimetière par la chaise.
Tous les endroits mythiques de Paris, vous les avez visités. Merci beaucoup, Éric. Ça a été un plaisir de vous parler. Et ça a été un plaisir aussi, évidemment, de vous parler. Rapidement, là, en quelques secondes, le voyage que vous rêvez de faire, que là, vous dites, bon, le porte-conteneur pour Guillaume, ça s'en vient, mais est-ce qu'il y en a d'autres également, rapidement?
Ah, il y en a plein. Par exemple, il va y avoir le porte-conteneur à travers le canal de Suez, ça, c'est sûr.
Les îles de Pâques.
Ah, oui, pourquoi pas. Jadrino?
Ben, je suis en train d'étudier d'envoyer mon Westphalia en conteneur, justement, en Nouvelle-Zélande pour moi-même là, circuler là-bas. Donc, on s'en reparle, j'imagine.
Oui, on s'en reparle, effectivement. Jadrino Huotte, merci d'avoir été avec nous. Benjamin Rochette, également fondateur de WeSurf et aussi Guillaume Lavoie. Bon voyage, Guillaume. Tu nous
reparleras
en revenant.
Merci, salut.